Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi le Saint-Livre. Nous allons lire deux portions qui vont nous servir de point de départ ce soir. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lirons d'abord le verset 22. Et puis nous lirons le verset 36. À cette première portion, nous ajoutons une deuxième. Le livre des Psaumes au chapitre 90 ou 90. Et là, nous lirons le verset 3. Le verset 10. Ainsi que le verset 12e. Donc 3, 10 et 12. Acte 13, verset 22, dit ceci. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils
d'Isaïe,
homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Verset 36. Or,
David,
après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Psaume 90, c'est l'un des seuls psaumes écrits ou chantés par Moïse. Et les patriarches disent ceci: tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui les en tire n'est que peine et misère. Car notre vie passe vite et nous nous envolons. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Une vie, un but et une saison. Tel est le grand thème autour duquel nous allons réfléchir tout au long de ces 5 jours. Cet enseignement, nous l'abordons en 3 grands points. Le premier point, c'est une question générale. Avec d'abord comme premier de cet enseignement. Et le deux, nous allons définir les termes clés de cette. Les termes vie, but et saison. Et puis après cela, nous verrons les principes sur la vie à destinée. Et puis il y aura le deuxième grand point où nous parlerons sur la destinée. Nous verrons d'abord ce qu'elle est. Nous parlerons des adversaires de la destinée. Nous allons montrer comment découvrir sa destinée ou son but sur la terre. Et nous montrerons aussi comment maximiser une saison une période que Dieu vous donne dans votre destinée. Et nous finirons par une grande conclusion. Notre passage clé, c'est Actes 13, 10, à Actes chapitre 13, verset 22 puis verset
36.
Le verset 22 parle de quelque chose que Dieu fait. Dieu rejette quelqu'un. Mais il ne laisse pas le vide, il suscite quelqu'un d'autre. Mais il ne suscite pas en vain. La Bible dit il a suscité pour qu'il accomplisse toutes ses volontés. J'en parlerai beaucoup demain. J'aimerais que nous puissions savoir que Dieu au ciel a des rêves, il a des projets. Et il cherche des canons sur terre par lesquels passer pour ce que lui il a conçu au ciel s'accomplisse sur la terre. Et j'aimerais déjà anticiper les rêves de Dieu peuvent être pour une église, pour un quartier, pour une commune, pour une ville, pour un pays, pour un continent. Dieu peut avoir des rêves pour un coin et il cherche quelqu'un par qui passer. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi je dis déjà ce soir, Seigneur, si tu as un rêve et tu cherches un canal, mais voici, envoie-moi. Et dans les rêves qu'il avait pour Israël, il a trouvé un canal. David.
David.
Et Actes 13, verset 36 va plus loin. Ça nous montre que David a eu une vie. Que nous allons définir vers la fin aujourd'hui. Mais cette vie n'a pas été du tourisme. La Bible dit, durant cette vie, il a servi au dessein de l'Éternel. Sa vie a eu à servir pour le but que Dieu avait. Et quand nous le verrons vers la fin de cette première intervention, cette vie a eu un point final. Cette vie n'a pas été éternelle. L'avait dit, il a servi au dessein de l'Éternel en son temps. Le terme temps là en grec, saison. Période définie, période limitée, une fin. Et puis après la Bible dit, il est mort. Aidez-moi à dire à ton voisin, calmement, tu vas mourir. J'entends quelqu'un refuser, il y a ça au nom de Jésus, ça sert à rien. Il a servi. Oui, il est mort. La Bible dit qu'il a été réuni à ses pères. Et la Bible utilise un terme fort. Il a vu la corruption. Son corps sans vie était rongé par les vers. J'aimerais que tu t'imagines. Un jour, tu seras dans un coffret rectangulaire appelé cercueil. Ton plus beau costume.
La
plus belle robe. Ou la robe blanche comme les kinos ont appris à voir les
systèmes.
Tu essaies de t'imaginer ma soeur bien maquillée. Tu t'imagines mon frère gants blancs comme les jours du mariage. Tu sens l'odeur qu'il y a l'air dedans. Et puis on va te déposer un endroit, quel que soit l'amour qu'on a pour toi. Tu as déjà vu le poisson fumé qui commence à s'abîmer? Les bestioles qui sortent? Ça serait exactement comme ça. toi et moi.
Yo nangai.
Mais combien il est bon quand on se retrouve comme ça.
Boni ezali malamu tango tozali kokuta na lolenge oyo.
D'avoir une vie qui a servi à quelque chose.
Kozala na bomoi oyo esalelaki na tina moko.
D'avoir une vie qui a servi à quelque chose.
Kozala na bomoi moko oyo esalelaki na tina moko.
Ce séminaire, j'en ai la certitude au fond de mon cœur.
Malakisi oyo nazana kondinisa manakati ya motema na ngai.
C'est l'un, si pas le plus important que j'ai jamais eu à animer.
Ezali moko soki pete oyo eleki na motuya na ba onyos na yeba kopesa.
C'est l'un de plus important que nous avons eu à co-animer parce que nous serions, je serai avec le pasteur Atoms.
Ezali moko na motuya na oyo na yeba na kopesa ngai elongo na mobateli pate Atoms.
Important non pas à cause de nous comme orateurs.
Motuya na ngai ezali te pona biso batei.
Mais à cause du lot d'informations que je sais que nous allons recevoir.
Nicolo na basango mingi oyo tokomemela bino.
À cause des bonnes questions que ce séminaire va nous aider à nous poser.
Nicolo na mituna malamu oyo matea oyo kosunga biso to mituna.
À cause du regard qu'il va nous aider à avoir sur nous-mêmes, sur où nous sommes, sur vers où nous allons.
Nicolo na miso oyo tokomitala biso pona koyeba ka ete to uti wapi, toza wapi.
À cause, j'en suis sûr, de choses que ce séminaire va soit renforcer, soit rectifié dans notre façon d'être et de faire.
Nicolo na makambo oyo matea oyo ekobongisa to ekokembisa na bomoi na biso.
Avant de faire part de la raison d'être de cet enseignement en quatre points,
si manakolobela
avant
ya matea oyo na banzela minei.
Je disais avant de faire part de la raison d'être de cet enseignement en quatre points.
Yambo ya kolobela tina ya matea oyo na banzela minei.
J'aimerais d'abord faire part des trois publics auxquels ce message s'adresse.
Nalingi na ino kolobela lolenge ya bato misato oyo matea oyo ezali pona bango.
Nous avons l'impression d'avoir un public compact, homogène.
Tozaila na makanisi lokola ete tozana bato basangani kaka moko.
Mais dans ces publics, nous avons trois publics.
Kati kasi kati na lisanga to na etuluku na bato oyo tozaina lolenge misato.
Et le premier public auquel je m'adresse, c'est ce que j'appelle les très jeunes. Ils ont entre 0 et 30 ans. Et j'en ai la certitude, s'il y a 100% des choses qui seront enseignées durant tous ces jours,
30
à 25 concernent les deux autres publics. Mais 70 à 60% concernent principalement ce premier public. Ce premier public, conçu de cette tranche d'âge de 0 à 30 ans, ce premier public a quatre caractéristiques. La première caractéristique, ils ont beaucoup de temps à leur disposition.
Des
temps de vigueur. Ils ont au minimum 30 de vigueur devant eux. Et pour certains, privilégier même une certaine, même 55 années de force. Je l'expliquerai bien. Moi, de plusieurs années, je ne fais plus partie de ce public. Mes années de force, il y en a plus derrière moi que devant. Et ce public qui, vous qui êtes ici, combien je voudrais que vous puissiez assimiler ces choses. La deuxième caractéristique de ces premiers publics, c'est qu'ils sont ignorants de la valeur de la vie et du temps, ces merveilleux capitaux qu'ils ont entre leurs mains. Ils
ne
connaissent pas trop la vie, comment elle fonctionne.
Ils
ne connaissent pas trop la valeur du temps. Ils en ont beaucoup à leur disposition, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprennent, ils comprennent à peine ou très peu. La troisième caractéristique, de ce premier public, ils ont tendance à gaspiller et à mal utiliser ces deux précieux capitaux. La vie ainsi que le temps. Ils ont tendance à croire que la vie, on peut la vivre au brouillon et puis la réécrire au propre. Ils n'ont pas l'idée que le temps, c'est irréversible. Un homme disait, ceux qui ont beaucoup de temps à leur disposition n'en connaissent pas la valeur. Mais ceux qui en ont très peu, j'allais ajouter, comme moi, connaissent la valeur. De plus en plus, je commence à ne plus perdre mon temps parce que je sais que je n'en ai plus beaucoup. Quatrième caractéristique de ce premier public, ils sont quelquefois, pas toujours, quelquefois insouciants. Pas de sens de priorité. Je prie que les jeunes gens, filles et garçons qui font partie de ces publics s'enrichissent pleinement durant ces 5 jours. Deuxième public cible, ce sont les matures. Et moi, je fais partie de ces publics. Ils ont entre 30 et 55
ans.
Eux, ils ont 5 caractéristiques. La première caractéristique, ils commencent à avoir conscience de la valeur de la vie et du temps. Surtout dans leur côté, passe-t-il? Ils
ne
sont plus ignorants comme les premiers publics, ils ne sont plus insouciants. L'érosion qu'il y a sur ma tête me rappelle le temps passe. Les quelques mots que je n'avais pas avant commencent à me rappeler que l'âge avance. Les sons, je cours à peine 20 mètres, mais oh, quand nous fûmes, quand nous courûmes. Je me souviens, j'étais un jour à un endroit et j'entendais un jeune homme, comme les jeunes gens peuvent être insolents. Tatoué à Libandi, poussant, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Dans ma tête, j'étais toujours le jeune homme de 74 qui avait beaucoup de cheveux bougie avant, bougie arrière. Job 9:25-26. Job qui doit avoir entre 50 et 55 ans fait un constat. Il dit mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il dit il fuit sans avoir vu le bonheur. Il dit mes jours passent comme les navires des gens, les navires les plus rapides. Il dit mes jours passent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Et vous savez, l'aigle va très vite. J'en parle souvent. Le jour où on m'a honoré pour mes 50 ans, j'en revenais pas. Je revoyais encore cette époque en 69, 70, quand ici à Bandal sur Nzo, bonjour, Bi. On appelait ça du bon, je ne sais pas pourquoi. On faisait un jeu qu'on appelait Tour de France. C'était comme si c'était hier. Je vois comme si c'était hier les jours où Apollo 11 est venu à Kinshasa et nous les avons suivis jusqu'à la place Victoire. J'ai l'impression que c'était encore hier quand c'est cette époque qu'on chantait Ali Boumye, Ali Foreman. Pasteur Atom, c'était encore chez Jésus. Et même très loin chez Jésus là. Je revois encore comme si c'était hier. Quand Zaïre, Zambie, 2-2, puis on a rejoint un deuxième match. On suivait les matchs à la radio. Quand on disait Ndaye Boutumbula, Ndaye, Ndaye, si on dit trois fois, on savait que c'était un but. Je revois encore, nous étions à Bandal, là où il y a bloc commercial, et ils sont passés. Mon jeune frère m'a dit, on va les suivre jusqu'à Mongaliema. Et Mongaliema, à l'époque, c'était un bel endroit, avec des fontaines. Ils avaient gagné une coupe qu'on avait appelée Moseka. Demande à ton voisin, yo, ebi Moseka. Je revois encore comme si c'était hier. Quand ma mère portait un panne qu'on appelait mon mari est capable. Demande à ton voisin, oui, mon mari est capable. Je revois encore comme si c'était hier. Quand les poissons Thompson, c'était pour les chiens. Et à Kinshasa, on mangeait simplement. Voilà. Très vite passé. Je revois encore objectif 80, objectif 80. Je revois encore cette époque quand on était petit. Je ne sais pas si c'était votre cas. Ou quand on arrivait à 1000, pour nous, au-delà des 1000, c'était dollars. Moi j'aurais 100 maisons, l'autre disait 500, l'autre disait 1000, et puis j'aurais dollars. Mais je vois encore comme si c'était hier. Quand le bus scolaire venait nous chercher à Bandal. Et quand j'ai raté le bus, prenais un taxi seul. Ça venait me poser jusqu'à devant la maison. Je revois encore la nuit quand on nous a amené Ciné Palladium, Ciné Irak, Ciné. Il passe vite.
Et
aujourd'hui, je n'ai plus de cheveux. Très vite passé. Deuxième caractéristique de cette catégorie. Il commence à avoir les yeux ouverts sur deux réalités. Premièrement, le temps clé. Deuxièmement, le temps qui reste. Conscient de ces deux choses. Sans qu'ils les disent à haute voix, ce sont des vrais comptables. Qu'est-ce qui est passé? Et qu'est-ce qui reste? Troisième caractéristique de ce deuxième public. Il commence à avoir conscience des écarts et des différences. Que la vie apporte selon que l'on a bien vécu ou que l'on a mal vécu. Selon qu'on a fait des bons choix au bon moment. Pris des bonnes décisions et levé les bonnes options. Qu'on le veuille ou non. C'est la période des premières évaluations. Les temps où ils s'arrêtent. Quand ils ne veulent pas faire cette évaluation, la comparaison avec d'autres les pousse à faire cette comparaison. Et des fois, quand ils vous disent des choses, vous ne croyez pas. Ils vous disent, enfant, vous voyez cet homme qui est président de l'Assemblée nationale. Là, il est au temps dans les voisins.
L'enfant
regarde les voisins.
Quatrième
Quatrième caractéristique de cette tranche, ils ont un regard sur la vie et les temps passés qui s'accompagnent de trois sentiments inévitables. Premier sentiment, sentiment de joie et de fierté à cause du vécu positif de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà accompli jusqu'à présent, qui vous valorise à vos propres yeux et aux yeux d'autres personnes. Ils le disent quelquefois, et quelquefois ils ne le disent pas, mais il y a comme une fierté. Deuxième sentiment, il y a des regrets. Il y a la culpabilité. Il y a les remords. Et même quelquefois les complexes.
Dus
à la mauvaise gestion de la vie. Du temps mal géré, des occasions ratées. La plupart qui ne sont pas forts, ils sont dans le monde, ils se mettent dans l'alcool parce qu'ils veulent oublier toutes ces choses qu'ils ont ratées. Troisième sentiment qui accompagne. Ils sont quelquefois ambitieux. Ils ont des nouvelles ambitions. Et ces nouvelles ambitions ont comme but de corriger les erreurs qu'on a eu à commettre. Ils disent, on a perdu du temps. Tout n'est pas perdu, il y a encore
quelques...
Ils disent dans les 15, dans les 20 ans, de changer les choses. Et si vous êtes là ce soir, vous avez eu à commettre des erreurs. J'aimerais vous dire une bonne nouvelle, c'est fini. Il est possible dans les années qui viennent, en qualité, produire des choses qui vont avoir des choses anciennes. Cinquième caractéristique de cette tranche, ils sont différents des deux autres publics. Si le premier public est insouciant, le troisième public que nous allons voir tout à l'heure est fataliste. Le premier public de très jeunes, ils sont insouciants. Et le troisième public, ils sont fatalistes. Mais tandis que ceux qui font partie de ces deuxième public, il s'espère encore.
Il
croit encore. Et avec vous, j'aimerais le dire comme les Gaël l'ont dit, c'est encore possible.
Les
troisième public auxquels je m'adresse, ils
ne
sont pas majoritaires au centre missionnaire Philadelphie. Mais il y en a quand même. Ils ont entre 60 et 85 ans. Je les appelle les seniors, ceux qui sont dans la phase descendante de la vie. Cette tranche d'âge a quatre caractéristiques aussi. La première, ils ont une révélation presque claire de la vie et du temps. Ils comprennent au fil du temps le mécanisme de la vie. La vie n'a plus beaucoup de secrets pour eux. Ils savent que ça, ça amène à ça. J'oublierai jamais cette scène qui a eu lieu 2 ans après ma conversion en 87. En
87,
j'avais à peine 23 ans. Et je me suis retrouvé au chevet d'un oncle qui avait 72 ans qui était en train de mourir. Et il était en train de parler à ses fils et nous avons écouté le message. Il disait en pleurant, je regrette du fait que je sors de la vie au moment où je comprends comment la vie fonctionne. J'ai compris tardivement les mécanismes de la vie. Et je maîtrisais le rouage de la vie, mais c'est au moment où je sors. Et il a regardé ses enfants, il a dit, comprenez tôt et vous vivrez mieux. Les seniors, ils ont une compréhension. Ils ont une connaissance. Mais quelquefois tardive. Les proverbes ne dit-il pas? Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Deuxième caractéristique de cette tranche. Ils peuvent faire un bilan presque définitif de la vie. Et du temps qu'ils ont eu à gérer. Dans Genèse 47, verset 9. La partie A. Lorsque Jacob se présente devant les pharaons en Égypte. Les pharaons lui posent la question, quels sont les nombres des années de ta vie? Ah, il parle de sa vie en termes de grande qualité. Il dit les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Français courant dit, ma vie est vite passée et j'ai connu des années difficiles. Il parle des choses irréversibles. Il associe dans son dans sa comptabilité, comme je dis, et dans son évaluation, deux notions. La quantité ainsi qualité. Troisième caractéristique de cette tranche d'âge, les seniors. Ils ont conscience du temps qui est et qui ne va plus revenir. Leur corps le leur dit. Les photos le leur rappellent. Les autres, par leur regard et par leur traitement, leur font dire, vous êtes des has-been. Ailleurs, on va les déposer dans des hommes de vieillards. L'antichambre de la mort. Restez ici avant votre départ. Dans Psaume 37, au verset 25, un homme qui a été jeune et qui est devenu seigneur en parle. Il parle de sa vie en prenant les deux bouts les plus extrêmes. Il dit, j'ai été jeune, ça c'est le passé. Mais il est reconnu, maintenant je vieillis. J'étais frais, j'étais capable, maintenant je vieillis. La version parole de vie dit, j'ai été jeune. Et maintenant je suis vieux. Une autre version dit, j'ai été jeune, mais voilà maintenant vieux.
1
Samuel chapitre 3,
verset
2. Alors qu'Élie le sacrificateur veut voir le contraire. Et autre chose, son corps les ramène les deux pieds sur terre. La Bible dit en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. L'ex-jeune. Il commence à avoir les yeux troubles. Quand j'étais jeune, je me moquais de mon père. Du fait que nous, pour bien regarder, on rapproche les choses. Lui, pour bien regarder, il les éloigne. J'étais étonné, il y a quelques mois, j'étais loin d'ici. On me donne un livre, je mets là, je ne vois pas bien. Je le pousse, je vois très bien. Moi-même, je dis, Ngaye, Bandi.
Ah, c'est fini pour moi.
Même si tu noircis les cheveux.
Attends, comme ici, ce qui m'a
inévitable. Même si tu utilises trois couches de maquillage, les rides finiront par sortir. J'ai vécu une scène qui m'est restée.
C'est en
2004. Je suis allé chez mes parents à Lausanne. J'ai descendu le véhicule, j'ouvre, il avait plu. Et avant j'avais toqué, c'est mon père qui venait. Quand il était jeune, un bel homme, un bel athlète. Très sportif. Et je le voyais descendre pour venir me voir. À la limite, on dirait qu'il le faisait descendre.
Moi-même,
j'ai regardé, j'ai dit, monsieur le directeur,
assis-le.
Et moi, j'avais une flaque d'eau et je sautais. Et durant quelques secondes, je l'ai vu me regarder. Et moi aussi, je l'ai regardé. Quand je l'ai regardé, il est né, quand je suis né, il avait
26
ans. Je voyais moi-même ce que je serais dans 26
ans.
Et quand lui me voyait,
il
regardait ce que j'étais il y a 26
ans.
Je ne pensais pas que c'était vrai. Quand je me suis approché, il a dit
Roland,
qu'est-ce que je t'envie quand je te vois sauter ainsi. Et je lui ai dit aussi, qu'est-ce que j'ai peur quand je te vois marcher ainsi. Je voyais en lui ce que je veux devenir. Et lui voyant en moi ce qu'il était qui ne peut plus revenir. Conscience du temps qui est passé qui ne va plus revenir. Dans
Philémon,
au verset
9,
je
ne
vais pas donner le chapitre parce qu'il y en a un seul.
Paul
écrivant à son fils dans la foi lui dit, je t'adresse une prière étant ce que je suis, vieillard.
Vieillard,
conscient le temps est passé. Une autre version dit un homme avancé en âge. Quatrième caractéristique de cette tranche d'âge, ils sont caractérisés par deux regards. Deux regards différents. Parce que conscient que quantitativement
et
qualitativement, il n'y a presque plus rien devant eux. Tout est derrière. Et cela les amène à un double sentiment. Joie, fierté, bonheur et satisfaction. Et la plupart des fois définitif. Pour affronter la dernière étape de leur vie, la mort. Et ceux qui ont bien vécu l'affront et l'attente la tête haute, sans regret, avec le sens du devoir accompli. J'ai quelquefois été au contact des seniors qui veulent mourir. J'ai vu la joie sur certains visages. Ils savent que leur vie a servi à quelque chose.
Dans 1 Chroniques 29, verset 23,
la Bible parlant de David. Qu'est-ce que ces paroles sont fortes. Il mourut dans une vieillesse heureuse, rassasié des jours, des richesses et des gloires. Qu'est-ce que j'aimerais mourir comme ça. Vieillesse heureuse, mort en sifflotant. Mort en regardant son album, voir les exploits, les églises qu'on a fondées, les enfants spirituels qu'on a enfantés. Vieillesse heureuse. Voir ces enfants qu'on a propulsés dans la vie qui sont devenus quelqu'un. Ça vous arrive de vous imaginer, vous êtes mort.
Et
vous pensez, les gens tout autour, ils disent quoi? Est-ce que vous imaginez votre oraison funèbre? Est-ce qu'on
fête?
Est-ce qu'on va vous jeter rapidement comme un cancer? Dans une vieillesse heureuse.
Et
la Bible dit surtout rassasié des jours. Ayant retiré des jours tout ce que les jours avaient comme contenu.
Le
terme qui veut dire un citron pressé, il n'y a plus rien. On a tellement pressé qu'il n'y a plus rien. J'aimerais mourir comme ça. J'aimerais, avant de mourir, prêcher la dernière prédication. Faire le dernier enseignement. Écrire le dernier livre. J'aimerais, quand on jettera mon corps dans la terre dise, ah,
j'aimerais,
comment pasteur Tom disait, ne pas enrichir la terre.
Un roi chapitre
2,
verset
1 à 2 nous parle de la sérénité avec laquelle un seigneur a abordé les derniers virages de sa
vie.
David approchait du moment de sa mort
et
il donna ses ordres à
Salomon.
Écoutez la sérénité avec laquelle il
parle.
Je m'en vais par les chemins de toute la terre sans regret. Pourquoi? Il savait qu'il a servi au dessein de l'Éternel. Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Que dire de Paul?
Dans
2 Timothée 4, 6 à 7.
Il
dit, car pour moi, je vais bientôt servir de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit, une couronne de justice m'est réservée. Conscient qu'il a tellement bien vécu. Il est conscient de la rétribution.
Et
le deuxième sentiment que certains seigneurs ont,
les
regrets. Culpabilité. Et un sentiment d'échec. Il meurt de culpabilité. Cela m'amène à dire, pourquoi cet enseignement? Il y a quatre raisons qui justifient cet enseignement au travers duquel je m'adresse à ces trois publics. La première raison de cet enseignement, c'est l'équipement. Mettre à la disposition de quelqu'un des choses nécessaires pour bien mener une activité ou accomplir une tâche, c'est ça l'équipement. Et par rapport à l'équipement, l'équipement vise principalement les premiers publics et puis un peu le deuxième. Bien que c'est légèrement déplacé, dans 1 Samuel 17 verset 38, alors que David veut aller affronter
Goliath,
Saül estime qu'il doit avoir des choses. Il a équipé d'un vêtement spécial. Il lui a donné un casque. Il lui a revêtu d'une cuirasse. Que des personnes qui affrontent la vie sans l'équipement nécessaire. Et tous ces jours, et même hier, qu'est-ce que c'était d'ailleurs déjà, Dieu veut nous équiper. C'est pourquoi je vous envie, très jeune, de Philadelphie et d'aller assister à ce séminaire.
Il
reste quelque chose, je suis dans le Seigneur. Ces choses que vous entendez, nous ne les avons pas entendues.
Nous
avons appris par essai et des fois dans ces échecs, les conséquences nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Et cet équipement passe par un processus important appelé la connaissance.
Le
fait d'avoir à sa disposition une quantité, une qualité d'information. Et par rapport à la connaissance qui sert d'équipement pour affronter la vie, j'aimerais vous mentionner ces trois choses très importantes. La première, c'est que son absence peut être nocive. Les prophètes aussi disent, mon peuple périt faute de connaissances. Deuxième chose, la connaissance influence toujours notre qualité de vie et notre façon de nous comporter.
Daniel 11,
verset
32,
parlant d'un groupe de gens ayant la connaissance, et là il s'agit de la connaissance de Dieu,
et
ils agiront avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils sont détenteurs d'une richesse appelée connaissance. Troisième chose attachée à la connaissance, elle n'est véritablement profitable que si elle est pratiquée. Il ne suffit pas de connaître. Et là, il y a toujours cette formule que je dis souvent à la fin de nos séminaires. Le but, ce n'est pas de faire de vous des scribes, des écrivains. Si ce que vous écrivez ne se transforme pas en vie, on aura échoué. Dans Jean chapitre 13, au verset 17, Jésus dira à ses disciples, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez, pourvu que vous les transformiez en style de vie. La première raison d'être, c'est l'équipement. Mais la deuxième raison d'être de cet enseignement, c'est l'avertissement. Parler d'avertissement, c'est parler du fait de faire prendre conscience d'un danger potentiel mais réel. Avant que celui-ci n'arrive, dans le but de l'éviter. L'avertissement a toujours deux facettes. La première facette, c'est qu'un lot d'informations nous
étonnait.
Et deux, c'est l'eau d'information est donnée pour l'appel au réajustement. Je marche comme si rien n'était. Un écriteau m'avertit, fil électrique
6600
volts. Cette information m'appelle à changer ma façon de marcher. Et l'avertissement concerne pas seulement le deuxième public. Les matures,
portions,
vous avez déjà
perdu
encore.
Le
fait non. Si vous n'avez pas les principes que vous aurez dû pratiquer avant, demain peut produire les mêmes résultats négatifs qu'hier a produit. Et votre hier sera égal à votre aujourd'hui, à votre demain.
Dans Acte
27, verset 10, alors que les gens veulent aller dans une direction, l'apôtre Paul dit, oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Avertissement. Troisième raison de cet enseignement, c'est l'évaluation.
L'évaluation.
Et l'évaluation vise aussi les deuxièmes publics. Évaluer, c'est donner une valeur à une action. Porter un jugement sur la valeur d'une chose ou d'une action. Et par rapport à l'évaluation, j'aimerais rapidement faire mention de 5 principes la concernant. La première, c'est que l'évaluation peut avoir plusieurs formes. Deux principalement. La première forme, c'est l'auto-évaluation. Nous-mêmes, nous nous jugeons. Je évalue je. La deuxième forme, c'est l'évaluation extérieure. C'est d'autres qui émettent un jugement sur ce que nous faisons. J'aimerais nous dire, si nous voulons aller loin, nous devons apprendre à nous évaluer. Il y a quelques mois en arrière, le pasteur Atom nous a apporté un merveilleux message. Dans l'un des premiers points, je n'ai jamais oublié. Pas d'évolution sans évaluation. Celui qui veut évoluer, veut faire des progrès, doit s'arrêter. Le roi chapitre 7 verset 9. Les gens se sont eux-mêmes évalués. Nous n'agissons pas bien. C'est pas l'extérieur qui a émis un jugement. Exode chapitre 18 verset 17. Quelqu'un s'est laissé évaluer. Moïse par Jéthro. Dans son leadership, ce que tu fais là n'est pas bien. Et je prie pour les matures et pourquoi pas même les très jeunes de s'arrêter de s'évaluer. Deuxième caractéristique de l'évaluation, elle est bonne et elle est nécessaire pour plusieurs raisons. La première, elle nous permet de rester dans les bons et affermir les bons. La deuxième, elle permet de corriger les erreurs. Imaginez les grandes entreprises qui ont comme objectif les lucres, les bénéfices. Ils arrivent soit à la fin de l'année, soit en début d'année. Et qui veulent gagner, fermer boutique. Ils mettent un écriteau bilan. Est-ce que vous n'avez plus d'argent parce que vous en avez beaucoup? Ils disent non. Nous voulons nous arrêter pour savoir est-ce qu'on gagne ou on perd. On a de l'argent, on aimerait acheter. Non, revenez dans 7 jours. Nous voulons d'abord vérifier. Je nous appelle, je m'appelle moi-même à l'évaluation. Troisième caractéristique. La Bible encourage à l'évaluation. Surtout dans sa première forme, l'auto-évaluation. 1 Corinthiens 11, 31. La Bible dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions jugés par personne. Et tu te juges. Est-ce que tu t'évalues? 2 Corinthiens chapitre 5. L'homme de Dieu dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. 4e caractéristique de l'évaluation. Même Dieu l'a pratiqué. Même Dieu, au moment de la création, à 6 reprises dans Genèse 2, nous retrouvons cette phrase, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Il pose des actes et puis il se retire, il évalue est-ce que ce que j'ai fait valait la peine ou pas.
Et la
septième fois même, il avait dit, il vit ce qu'il avait fait, était très bon.
Mais
avant de clore ses points et aller vers, petit à petit vers la fin pour aujourd'hui,
il
y a un piège à éviter dans l'évaluation, dans l'auto-évaluation. C'est la complaisance. La complaisance, les refus volontaires d'être juste dans le jugement, d'être sans parti pris. Dans Jérémie 7, 1 à 10, la Bible nous parle d'un peuple complaisant. La Bible dit ces livres des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quatrième raison d'être de cet enseignement, c'est l'apaisement. C'est-à-dire le fait de calmer là où les tensions. Quelquefois normal, mais tardive et inutile. Et là, ça vise les seigneurs. Calmer leur remords. Calmer leur
regret.
Calmer leur culpabilité. Tension ou remords qu'ils ont en cause du fait qu'en regardant en arrière, ils voient toutes les occasions ratées. Pourquoi les apaiser? Pour trois raisons. La première, leur dire que vous ne pouvez plus changer le passé. Assumer. Assumez ce qui a été fait. Assumez vos choix avec leurs gâchis, leurs mauvaises conséquences. Deuxième des choses, leur dire vous pouvez retirer du positif, du négatif par lequel vous êtes passé. Vous avez appris au travers de vos erreurs. Vous avez appris au travers de vos mauvais choix. Et troisième chose, les apaisant leur disant, vous pouvez devenir utile aux nouvelles générations. En ouvrant la bouche et en tirant les regards des jeunes générations, en leur disant, j'ai connu ça, ne faites pas ça. J'ai levé une telle mauvaise option dans ça, vous n'avez pas le droit de revenir aux mêmes choses. J'aime l'homme de la parabole du riche et du pauvre. Dans Luc 16, versets 27 à 28. Il dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste les choses qu'ils voient. Enfin, qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tout. C'est-à-dire, je veux être le seul à avoir connu. Je ne veux pas que les autres passent ça. Donne-nous des seigneurs qui ont fait. Souhaite que d'autres ne passent pas. Et parmi les termes clés que nous abordons durant ces cinq jours, l'un de nous dit quelques mots, 5-10 minutes, et puis nous allons clore. C'est la vie. Qu'est-ce donc la vie? J'ai trouvé plusieurs définitions dans les dictionnaires. La première définition la plus simpliste, la vie, c'est le fait de vivre ou d'être en vie. Ça ne nous avance pas trop. Hein? J'ai trouvé une autre définition. La vie, c'est l'ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort et caractérisant les êtres vivants. Une autre définition que j'ai trouvée, la vie, c'est l'existence de quelque chose. Mais la chose se transforme et évolue. Une quatrième définition que j'ai trouvée, la vie, c'est l'ensemble des phénomènes énergétiques
Et
parmi ce phénomène, on place l'assimilation,
la
croissance, la reproduction,
et
ce phénomène évolue de la naissance à la mort. Cinquième définition que j'ai trouvée, c'est que la vie, c'est l'existence envisagée dans sa durée totale. Période allant de la naissance à la mort. Et puis enfin, dernière définition que j'ai trouvée. La vie, c'est la période de temps pendant laquelle dure l'activité de quelque chose.
Et
je dis ces cinq choses et nous terminons ce soir par rapport à la vie. La première, la vie est un mystère. La vie est un mystère. Difficile à comprendre. Difficile à expliquer. Que deux gamètes se rencontrent. Les deux gamètes se rencontrent. Et ça forme la vie dans le ventre d'une femme. Et puis un jour, ça fait cet homme que je suis. Deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la vie. Elle nous dépasse dans notre effort à la comprendre. D'où elle vient. Pourquoi elle est donnée. Et qu'est-ce qui se passe après elle. Dans Psaume 139, verset 6, ainsi que verset 17, David fait un double constat. Il dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je ne sais vous expliquer la vie. Je suis trop petit pour cela. Verset 17, le psalmiste dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrable. Troisième caractéristique de la vie.
Elle
a des phases. Un début. Dans l'invisible. Et puis une existence dans le visible. Une période de fragilité, de dépendance. J'ai difficile à m'imaginer qu'il y a 49 ans, il y a 49 ans et demi, j'étais un bébé pour lesquels on tété, qui dépendait d'une femme. Faisant grand et petit besoin dans le corps d'une femme. Et puis vient la croissance. La période de maturité que les biologistes passent en place entre 25 et 45 ans.
Et
puis qu'on le veuille ou non, c'est la phase descendante où les cellules ne se reproduisent.
Et
petit à petit, vous allez vers l'atterrissage.
1
Samuel 17,
2,
et 1 Roi 1, au verset premier, David dans ces deux phases. Dans
1742,
on dit qu'il était enfant.
Elle
défigure. Un roi.
Roi
David était vieux.
Avancé
en âge.
Il ne
pouvait pas réchauffer. Cils, sourcils blancs.
Dents
absentes dans le dos. Courbé. Plus besoin de deux jambes, de trois et même quatre.
La
vie est faite phase inévitable. Que nous n'aimons pas. Qui s'appelle la mort. Et la mort, elle vient par plusieurs moyens. Elle vient par le vieillissement. Elle vient des fois subitement. Quand Dieu m'avait inspiré ce thème il y a plus d'un mois, c'est devenu encore plus d'actualité lundi passé. Je me réveille tard. Je finis ma prière. Et j'ouvre mon. Je vois on écrit Dr. Miles Monroe. Et moi,
Miles Monroe,
63 ans. Du 10 au 12, il avait une activité. Je parlais encore avec le docteur José Muzingu, très loin d'ici en Amérique
du Nord.
Et je vais au pays parce que je vais travailler pour que l'année prochaine, lors du premier semestre, qu'ils viennent à Lubumbashi et qu'ils viennent aussi en Afrique du Sud. La mort. La Bible nous dit plusieurs choses concernant la mort. Premièrement, c'est le chemin de tout humain.
Psaume
89, verset
49.
La Bible dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne point voir la mort? Deuxième chose que la Bible nous concerne la mort, c'est que l'homme ne peut jamais vaincre la mort.
Ecclésiaste
8:8 dit,
l'homme
n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir.
Il n'a
aucune puissance sur le jour de la mort. Troisième chose, après sa venue, il y a une évaluation faite par Dieu. Un avis sur les comment nous avons géré ce capital appelé vie.
Hébreux
9:27 dit, il est prévu aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et puis enfin, la façon dont nous abordons cette étape de notre vie dépasse souvent de la manière dont nous avons vécu. Dieu t'a donné depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, don de la vie. Et qu'est-ce que tu fais de la vie? Demain, nous allons aborder un aspect important. Que notre vie sur terre est un pèlerinage. Mais surtout un pèlerinage avec but.
Nous
parlerons longtemps d'un terme important, le but. J'aimerais nous inviter durant 5 minutes à baisser nos têtes. J'aimerais justement cesser de prier la
mère que nous avons.
Je suis touché.